Fruit de l'esprit, la bonté. Dans la suite de la découverte du fruit de l'esprit, voici une nouvelle dimension, la bonté. La bonté nous pousse à agir de manière désintéressée, sortant de nos habitudes pour nous ouvrir à l'autre. Comme les cyclistes, pour qui la coopération et le sacrifice personnel sont essentiels pour atteindre l'objectif commun de la ligne d'arrivée, la bonté implique des efforts supplémentaires de notre part pour le bien-être des autres. En selle, pour un parcours avec la tendresse pour boussole. Découvrez aussi dans ce podcast avec François Morinière, ancien patron de presse du grand quotidien français de sport L'Équipe, comment le cyclisme permet de déployer la bonté. Un podcast Prions en Église et Holy Games. Dans la suite de la découverte du fruit de l'esprit présentée par saint Paul dans sa lettre aux Galates, voici une nouvelle de ses dimensions, la bonté. Chacun, nous sommes tous capables, à certains moments, de faire preuve de bonté, même si cela nous demande de sortir de nos habitudes ou de nos plans. Mais comment définir la bonté ? Deux pistes pour essayer de comprendre ce qu'elle signifie. D'abord, la bonté est une folie. En effet, elle nous pousse à agir de manière désintéressée, sans calculer les conséquences de nos actes. Elle nous fait sortir de nos réflexes et de nos habitudes et nous ouvre à l'autre. La deuxième piste de réflexion est que la bonté est une folie, certes, mais une folie ordonnée. En effet, elle n'est pas une simple conséquence d'un sentiment, mais une vertu qui s'enracine dans notre être. Elle est le fruit d'un travail de transformation intérieure qui nous conduit à remodeler nos réflexes et nos valeurs. Dans l'ordre proposé par saint Paul, la bonté arrive juste après la patience, pour nous rassurer et nous encourager, car ce travail de transformation intérieure pour devenir vraiment bon est lent et difficile. Il nécessite notre engagement et la présence de l'Esprit-Saint et la confiance en soi qui permettra de croître et de laisser germer ce qu'il y a de meilleur en l'humain. À l'image des cyclistes. Dans ce sport exigeant, les coureurs doivent non seulement perfectionner leurs compétences individuelles, mais aussi coopérer harmonieusement pour atteindre leur objectif commun, franchir la ligne d'arrivée. Ils doivent parfois mettre de côté leurs propres ambitions pour le bien de l'équipe, tout en restant concentrés sur l'objectif ultime de la victoire. De même, la bonté peut requérir des sacrifices personnels et un dévouement envers le bien-être d'autrui, même lorsque cela demande un effort supplémentaire de notre part. Découvrez avec François Morinière, ancien patron de presse du grand quotidien français de sport, comment le cyclisme permet de déployer la bonté. Un texte lu par Mgr Marsay, évêque auxiliaire de Paris et responsable du programme Holy Games.
La bonté du cycliste. Pour illustrer la bonté, fruit de l'Esprit-Saint, nous avons choisi ce cyclisme. Évidemment, vient spontanément à l'esprit la notion de « équipier », un mot qui prend une signification particulière quand on évoque le vélo de compétition. En effet, les professionnels sont organisés par équipe, avec un ou deux leaders qui prétendent à la victoire ou aux places d'honneur, et 7 ou 8 autres coureurs équipiers ou spécialistes de tel ou tel aspect de la course, rouleurs, grimpeurs, puncheur, sprinter. Dans ce groupe de professionnels, le travail consiste à servir son leader dans l'ombre, à lui donner le bon rythme, à faire le train, c'est-à-dire à impulser le rythme en tête de course, en protégeant son chef qui se mettra dans la roue et évitera la prise au vent, les possibles incidents sur la chaussée. En un mot, souvent, se sacrifier pour la victoire d'un autre, dans une étape ou sur le podium. Ainsi appelé Gregario, ce coureur discret et qui restera inconnu à la postérité est pourtant un sacré champion capable de boucler Tour de France ou Tour d'Italie sans difficulté. Il aurait pu tenter sa chance pour être tout en haut de l'affiche, mais il a choisi de jouer les adjoints modèles. Cela va parfois jusqu'à donner sa gourde, voire son propre vélo en cas de chute, et dans ce sacrifice souvent dans la douleur physique et parfois morale. Tout cela est assez rare dans le sport professionnel, en tout cas à ce point. Un homme de l'ombre. Je vais vous parler du Poulidor de la sainteté. Il s'appelle Gino Bartali. C'est un Toscan qui est né pendant la Première Guerre mondiale et il est devenu un très grand champion cycliste à la fin des années 30, en remportant le Giro, puis le Tour de France, exploit qu'il renouvellera à 10 ans d'intervalle en 1948. Gino Bartali est le champion austère, fils de terrassier, catholique pratiquant, avec un visage inspiré d'un tableau de Greco. Sans la coupure de la Seconde Guerre mondiale, Bartali aurait probablement eu un des plus beaux palmarès de l'histoire du cyclisme. Gino Bartali reçoit le surnom de Gino le Pieux pendant le Tour de France 1937. Les soirs d'étape, il médite sur la vie de Sainte-Catherine de Sienne et les jours de repos, il assiste à la messe. À Paris, après sa victoire au Tour de France 1938, il se rend à la basilique Notre-Dame des Victoires pour y déposer une gerbe au pied de la statue de Sainte-Thérèse, qu'il vénère tout particulièrement. Il a d'ailleurs fait souder une médaille à son effigie sur la potence de son vélo. Et il devient alors membre du tiers ordre Carme, association destinée aux laïcs qui accepte une vie de pauvreté au service des autres. Mais le vrai exploit de Gino Bartali, ce n'est pas simplement sportif, car c'est une immense personne qui se cache derrière ce cycliste. Proche du cardinal Elia della Costa, archevêque de Florence, il a répondu favorablement à son appel en 1943, qui requiert son aide pour acheminer des faux papiers vers les couvents de la région où sont cachés les juifs. Les documents sont cachés dans la potence ou dans la selle du vélo de Gino, qui justifie auprès des autorités ses nombreux déplacements par la nécessité de s'entraîner. La grande popularité dont il jouit lui permet de franchir les contrôles de police sans éveiller les soupçons. Il se rend même parfois à Rome pour livrer des documents au Vatican. Ce sont des centaines de réfugiés juifs qui vont être sauvés grâce à lui. En plus de ses missions de transport de documents à vélo, Gino Bartali installe à la demande de son cousin Armando Sisi une famille juive, la famille Goldenberg, dans l'un de ses appartements à Florence. Après la guerre, Bartali n'a jamais parlé de ses faits de résistance pendant l'occupation allemande. L'essentiel de ses actes de bravoure et de son courage reste donc méconnu car il était alors catégoriquement opposé à toute interview. Il avait été guidé par sa conscience, par sa foi. Il ne tenait donc pas que son activité soit consignée. Il finira finalement par accepter à condition de ne pas être enregistré. S'ensuivra une conversation officieuse au cours de laquelle Gino confiera son rôle de passeur et ses distributions de faux papiers. Plusieurs années après sa mort, en 2000, des religieuses d'un couvent d'assises confirmeront également le rôle exceptionnel joué par le champion, pour qui elles priaient quotidiennement. Ce destin exceptionnel sera remarqué par Yad Vashem, qui décidera en 2013 de le reconnaître juste parmi les nations. Bonté de cet équipier modèle, inconnu du grand public, bonté de ce champion discret au service du royaume de Dieu. Ah, bien sûr, tous les cyclistes ne sont pas de cette trempe-là, de cette abnégation et de ce courage. Il est le reflet de l'humanité dans son éclat brillant et dans sa part d'ombre. Mais ces deux figures se rejoignent évidemment et montrent comment le sport peut faire grandir la personne humaine, corps et âme.
Pour s'exercer à la bonté, fruit de l'Esprit Saint, voici quelques conseils. Prenez votre agenda et regardez le programme de votre journée. Préparez une parole ou un geste de bonté pour celles et ceux que vous rencontrerez aujourd'hui ou dans la semaine. Et chantons l'Esprit Saint, l'Esprit de bonté.
Yeah.
une dernière chose. Connaissez-vous la sainte protectrice des cyclistes, Notre-Dame de Ghisallo? Notre-Dame de Ghisallo est une petite chapelle dédiée à Notre-Dame, à la Vierge Marie, située au col de Ghisallo près de Bellagio et du lac de Côme. En 1948, elle a été désignée par le pape Pie XII comme la patronne universelle des cyclistes. Un flambeau béni par le Saint-Père a été apporté depuis Rome jusqu'à la chapelle avec Gino Bartali et Fausto Coppi comme derniers relayeurs. Au fil du temps, de nombreuses reliques ont été apportées par des cyclistes de renom. On peut notamment admirer les vélos de Bartali, Magni, Coppi, Merckx, Gimondi, Motta, Moser, ainsi que de nombreux maillots et distinctions de coureurs. Sur l'esplanade, une statue représentant deux cyclistes a été érigée, l'un triomphant avec les bras levés, le vainqueur, et l'autre tombé à terre, le perdant. Cette représentation rappelle à tous les compétiteurs l'importance de l'esprit sportif et que l'essentiel est de participer.